Bonjour à tous et bienvenue sur le 29e Weekly News. Avec moi ce soir pour parler de l'info, Sam.
Bonsoir.
Et Bruno.
Oui, bonsoir à toutes et tous.
Au sommaire de cette émission du lundi 11 février, deux gros sujets exceptionnellement. On va commencer par un premier gros sujet, c'est le sujet DC. DC a annoncé énormément de changements créatifs, de séries qui s'arrêtaient, de nouveautés. Il va nous falloir un petit moment pour le traiter, on va ouvrir l'émission avec ça. On continuera avec les autres news hein, qui sont tombées cette semaine chez Marvel et autres. Le deuxième gros sujet sera l'AVF, qui bouge elle aussi, un grand relaunch Panini en cours, des nouveautés pour Urban. Ensuite, nous attaquerons la partie Screen News avec quelques infos ciné, télé et ou jeux vidéo. Enfin, le badge de la semaine et le Comics.com, la partie où on répond à vos mails ou à vos questions. Je suis Sylvain, vous écoutez le 29e Weekly News. On commence comme d'habitude avec le Quad 9. Alors justement, Sam,
Quad 9. Moi, grosse rétrospective Cowboy Bebop cette semaine. Ce qui m'a fait dire, ça y est, putain, je suis vieux, parce que je me suis rendu compte que la série avait 15 ans. Voilà, donc ça fait un sacré putain de coup de vieux. Et pourtant, la série reste toujours aussi bonne.
Série que je n'ai jamais regardée.
Bah putain, il faut que tu la regardes. Hein,
parce que c'est... Ah mais j'en ai entendu beaucoup de bien, mais j'ai jamais eu le temps.
Moi non plus.
Voilà, mais vraiment, c'est une série qui ne fait que se bonifier avec le temps. Donc c'est dire. Alors c'est vrai que ça a un peu vieilli certains effets, mais voilà, tu la replaces dans le contexte et c'est vraiment une tuerie absolue.
Et toi, Bruno?
Moi, ouais, ce week-end, avec ma copine, on est allé dans le passé, puisqu'on allait à une expo sur les Gaulois.
Mon Dieu, il a la Jean Lauréane. C'est toi qui l'avais, en fait.
Mais aussi, on est allé dans le futur, puisque je lui ai montré Star Trek, le film de J.J. Abrams. Et donc, je l'ai revu par la même occasion, et je l'ai apprécié encore plus que quand je l'avais vu au cinéma.
Ouais,
et j'attends
très bon
le deuxième avec impatience.
Putain, mais hé, faut pas regarder ça, faut regarder les anciens. Non, il est très bien, le film.
Mais c'est pas Star Trek.
La continuité.
Voilà, c'est pas la continuité Star Trek.
En ayant vu les anciens Star Trek et juste le film de J.J. Abrams juste après, comme je m'étais refait les 2, 3, 4, 5, 6, j'ai noté énormément de clins d'œil vraiment qui montrent l'amour qu'il avait pour la série originale.
C'est pour ça qu'il a détruit la continuité, ouais.
Mais en tout cas, il y avait beaucoup de clins d'œil intéressants. Et vraiment, le film était cool, quoi. Donc vivement la suite.
Pour ma part, moi aussi, c'est pareil, j'ai fait quelques petits films ce week-end. Je me suis notamment vu Lockout, que j'ai adoré.
Alors, vraiment. C'est le gars qui est bloqué dans une prison, c'est ça ou...
C'est ça, avec Guy
Pearce.
C'est
une production Besson, ça.
Qui est une production Besson, ce qui est rare que j'apprécie une production Besson.
Ça avait l'air un peu moins, ouais.
Ah non, mais c'est, franchement, c'est le film d'action basique, tu ne réfléchis pas. C'est en partie Demolition Man, en partie Die Hard et en partie New York 1997.
Ah, que des bonnes références.
Ah oui, non, mais vraiment, on sent l'amour pour ce genre de film et ils ont donné quelque chose de vraiment très sympa. Un bon petit film qui se regarde sans se prendre la tête et c'est génial. Enfin, franchement, j'ai vraiment passé un très bon moment. J'ai aussi regardé Cabin in the Woods. Oui, je me suis fait que des films hommages, apparemment.
Qui font bien rire, surtout.
Hein. Ouais, non, franchement, aussi un excellent moment de cinéma.
De rire, surtout. Parce que je l'ai vu, j'ai passé une heure et demie à me poiler, mais. C'est hallucinant. Notamment, pour ceux qui savent, le moment de la purge. Qui est énorme.
Ah, puis les références sont tellement nombreuses, quoi. Ouais. Enfin, c'est juste un plaisir de regarder ce film en disant « Ah tiens, ça, ah ça !» C'était génial, quoi. Ouais. Bon, j'ai aussi vu Cars 2, que je n'avais encore jamais vu, et que j'ai trouvé très sympathique. Ah, bref, ouais, ça a été un petit week-end cinéma, quoi.
Bon, c'est cool.
Allez, on va commencer avec le premier gros sujet de la semaine, c'est... Comme tu l'as très bien appelé, Sam, Cancelopolis, sur ton article. Oui. Cancelopolis chez DC, puisqu'il nous annonce pas moins de 6 titres qui vont s'arrêter au mois de mai. Nous avons Deathstroke, Fury of the Firestorm, Savage Hawkman, Ravagers, Sword of Sorcery et Team 7, qui sont donc tous annulés au mois de mai. Ce seront leurs derniers numéros. On peut noter quand même que dans ces 6 titres annoncés, on en a 3 qui sont des vagues récentes. Ravagers,
ouais, carrément.
Sword of Sorcery et Team 7 sont encore de la vague plus récente. Hein. Ils auront tenu
8 numéros.
Du 8 numéros. Mmh. C'est peu.
Et 2 étaient signés Liefeld.
Bon, pas ça. Il y en a deux où Liefeld est passé à un moment, oui. C'est vrai. Ouais.
Peut-être qu'ils n'ont pas réussi à remonter la qualité. Je crois que la qualité n'était déjà pas là au départ, en fait.
C'est étrange. Enfin, Deathstroke, ça a remonté un petit peu, là, avec Justin Jordan, qui est arrivé sur le titre. Les deux derniers numéros étaient plutôt agréables à lire.
Ouais, mais j'ai envie de te dire, les dégâts sont déjà faits, quoi.
Mais voilà. Les dégâts étaient déjà faits, ouais.
Si tu veux remonter un titre, Hawkman, tu fais comme ils ont fait pour Green Arrow, tu mets vraiment un gros scénariste, tu mets Jeff Lemire ou un Scott Snyder, tu mets vraiment un très gros nom. Justin Jordan n'a pas assez d'aura autour de lui pour reprendre un titre qui était vraiment en perdition.
Moi, le titre qui me fait mal, c'est Hawkman. C'est un peu un personnage que j'aime beaucoup depuis sa réintroduction dans la JSA il y a plus de 10 ans, pour ceux qui s'en souviennent, et ensuite la série de signée Jeff Jones qui était aussi pas mal du tout, donc c'est vraiment dommage de le voir finir comme ça.
Alors justement, c'est ce que DC nous dit, il n'y a pas à s'inquiéter, certains personnages vont réapparaître dans d'autres titres, notamment Hawkman qui apparaîtra dans Justice League of America. Il y a des plans aussi pour les personnages des Ravagers, et notamment Beast Boy apparemment.
Il va rejoindre les Teen Titans, enfin...
Voilà. Amethyst devrait toujours apparaître dans la Justice League Dark. Donc voilà, certains personnages ne vont pas disparaître hein, malgré l'arrêt de leur série, contrairement à des gens comme Blue Beetle, qui on nous avait promis continuerait, mais bon, pour le moment...
Ah si, il continue dans Threshold.
Oui, ayant lu le premier numéro, je l'ai pas vu.
Ouais, non, mais à la fin du dernier numéro de Blue Beetle, on le voit qu'il est emmené sur la planète de Threshold. Il apparaîtra dans le deuxième ou troisième épisode. En fait.
Est-ce que la série tiendra jusqu'à ce qu'il apparaisse ?
Je ne sais pas.
La question un peu trollesque.
Ouais. Le gros échec pour moi, c'est vraiment Team Seven, qui normalement était censé être une série qui se passe justement dans le passé et qui nous expliquerait plein de choses sur l'univers DC à travers cette équipe formée de personnages assez badass et d'anciens et de futurs méchants.
C'était surtout quasiment un titre pour essayer de faire revivre l'univers Wildstorm et voir si ça prenait, quoi.
Exactement.
Ça prend toujours pas.
8 épisodes, ça fait vraiment court. Moi, j'ai lu les 4 premiers. Je crois que j'ai pas lu le 5e, mais j'avais trouvé ça sympathique.
Mais t'en as lu 5, du coup, alors?
Ouais,
parce qu'il y avait le numéro
0. Ouais. J'ai trouvé ça sympathique. Il y avait une histoire avec Eclipso qui était plutôt cool. Le voir s'arrêter au bout de 8, ça m'énerve un peu, parce que je me disais qu'il y avait du potentiel.
Mais... Encore Eclipso? Parce qu'il me semble qu'il est passé dans Catwoman et qu'on le voit dans Sword of the Story, justement.
Oui, ouais, mais justement, ils essayent de ramener Eclipso sur le devant de la scène. Hein. Personnage emblématique des années 80-90, quoi, qui a été vraiment oublié hein, ces dernières années, notamment toute la décennie 2000, Eclipso n'a pas fait beaucoup de vagues.
Bah si, on l'a vu beaucoup dans JSA.
Ouais, vers la fin, ouais.
Oh non, c'était une bonne
grosse des grosses de vagues, excuse-moi, il y a eu quand même pas mal d'events à l'époque sur Eclipso, le mec pouvait te soutenir un event, aujourd'hui il soutenait quoi, enfin, dans les années 2000, il soutenait quoi, il soutenait juste JSA, quoi.
Mmh. Voilà, bah tant mieux, il avait perdu son aura.
Et du coup, ça fait deux titres avec Deathstroke qui meurt, donc c'est vraiment pas de chance pour le mec.
Mais tu vois, le problème avec Team Seven, tu l'as dit toi-même, c'était censé se passer dans le passé, nous apporter des éléments, etc., sur l'univers DC, machin. C'était comme le pitch que l'on avait sur Stormwatch au tout départ.
Ouais, c'est vrai.
Et Stormwatch, alors certes, Stormwatch est toujours en vie, mais Stormwatch ne fait pas de vagues non plus, c'est pas une merveille des ventes. Donc,
ça risque de beaucoup changer, par contre, Stormwatch, quand on voit ce qu'a prévu de faire Starlin dessus.
Ouais, Jim Starlin, ouais, mais bon, c'est peut-être justement ce qu'il faut faire pour éviter l'annulation, quoi.
Exactement, ouais.
Parce que, honnêtement, l'univers DC aurait déjà dû nous être expliqué. On en est quand même au 17e mois,
ouais.
Donc ça fait plus d'un an et demi. Ça fait plus d'un an et demi qu'on devrait savoir ce qui s'est vraiment passé et pas nous dire « Oh là là, vous saurez, un jour, vous allez voir des éléments sur le passé. » Ça prend plus, quoi. Ça prend plus. Et je pense que sortir des séries en disant « On va vous montrer ce qui s'est passé dans le passé. » Soit on le fait vraiment, mais on le fait pas par petits bouts, quoi. C'est, à mon avis, c'est pour ça que ça se plante, ce genre de série.
Non, puis la série était sympathique à lire, mais ça n'en restait pas moins une série mineure parmi les New 52. Hein. Donc ça m'étonne pas trop, quand même. Hein,
puis il faut garder de l'argent pour lire les 15 séries Batman. Hein.
Ouais.
Donc ils ont commencé à annoncer quelques plans, puisque donc 6 séries qui s'arrêtent. Ils ont confirmé que le nombre resterait bien à 52 séries, tout simplement parce qu'ils veulent sortir 13 titres par semaine.
Exactement.
Voilà. C'est plus l'histoire du chiffre magique 52, etc. C'est juste parce que 13 titres par semaine.
Bah, ils peuvent réduire à 10, hein. Ça fait 40 et c'est très bien.
Mais s'ils n'étaient pas trop cons, et je pèse bien mes mots, parce qu'en ce moment, chez DC, on se demande un petit peu ce qui leur passe par la tête.
Ouais.
S'ils étaient un tout petit peu intelligents, ils ajouteraient les mini-séries qu'ils font, puisqu'on a quand même quelques mini-séries qui sortent, et leur compte serait toujours à 52, en comptant les mini-séries. Et comme ça, ils prendraient moins de risques, créativement parlant et surtout financièrement parlant.
Ah, ça dépend, parce que bon, moi aussi je suis d'accord avec toi, j'en ai un petit peu marre de ces annulations en série, mais bon, ça permet quand même aussi d'apporter de nouveaux titres et de rafraîchir un petit peu la gamme à chaque fois. Donc,
Bah oui, mais si c'est pour des séries qui sont annulées au bout du 8 épisode, ça rafraîchirait du tout. Hein.
Ouais, mais il y en a qui tiennent, il y en a qui tiennent.
Ouais, il y en a qui tiennent, mais il y en a tellement peu. Regarde sur toutes ces nouvelles vagues que l'on a eues, quels sont les titres que tu lis régulièrement?
Bah, il y a Earth 2 et World's Finest, par exemple. Qui ont
moi, j'ai arrêté World's Finest, je ne lis plus qu'Earth 2, pour ma part.
Batman
Dayolage, Inc. J'ai arrêté aussi.
Batman Inc., on sait que ça va s'arrêter peut-être au numéro 12, même si ça n'a pas été confirmé.
Oh, je pense qu'ils trouveront
une petite régule. C'était prévu pour être une série en 12 à la base.
Ouais. Oui, je pense qu'il continuera avec une autre équipe créative.
J'ai la liste en fait des titres qui ont été rajoutés dans les différentes vagues après les. Parce qu'en fait, des 52 du départ, on en a plus que 33. À partir du mois de mai, il n'y en aura plus que 33 des 52 d'origine. Ça veut dire qu'il y en a quand même eu pas mal qui ont été éliminés. Mmh. Et dans les autres vagues, celles qui ont survécu, on a donc Phantom Stranger, les trois titres.
Annulés bientôt.
Oui, mais Phantom Stranger, c'est la dernière vague, donc.
On a Batman Inc., on a Earth 2, World's Finest, on a Talon, on a Constantine, on a Dial H et Threshold.
Donc ça, Dial c'est H, je vois pas ça durer très longtemps. Non plus.
Mais Threshold, il vient juste d'être lancé, ça vaut même pas la peine de le compter, ils vont pas l'arrêter
au bout d'un moment. Constantine, ça commence le mois prochain.
Oui, donc pareil, ça compte pas non plus, quoi.
Mais voilà, mais disons que par rapport au mois de mai, celui où on aura toutes ces annulations, ça laisse encore 8 slots pour 8 séries, en fait.
Alors, on en a déjà 2.
Voilà.
On va y passer tout de suite, on en a déjà 2. Je te laisse les annoncer, Bruno. Hein.
Oui, alors deux titres vraiment très étonnants. Le premier, c'est The Green Team, et le second, The Movement. Donc, c'est des titres, on ne sait pas trop d'où ça vient. Finalement, The Green Team, il y a une origine, puisqu'il y a une petite histoire par rapport à ce titre, ça existait déjà chez DC. C'est un vieux titre qui date des années 80, je crois. Donc là, ça raconte l'histoire en fait de jeunes milliardaires qui utilisent leur argent pour, je sais pas, donner aux gens la possibilité peut-être de devenir des super-héros. Ça a l'air un petit peu
annulé très vite. Hein, ça.
Non, mais attends. Il y a quand même une équipe créative et c'est ça qui est très intéressant.
Oui.
C'est que finalement, la semaine dernière, on annonçait l'annulation de Superman Family Adventures, ou c'était peut-être il y a 2 semaines, je ne sais plus. Et finalement, on retrouve Art Balthazar et Franco, cette équipe-là. Au scénario et au dessin de The Green Team.
Annulé en 8 épisodes. Je m'inquiète.
Et donc au dessin, du coup ça va faire un titre qui esthétiquement va peut-être un peu dénoter. Enfin, je sais pas s'ils ont un style un peu plus mainstream, mais par rapport à leur Tiny Titans et puis à leur Superman Family Adventure, c'est quand même un style très cartoony. Je sais pas s'ils vont garder ce style pour ce titre de New 52, mais en tout cas,
il y a des titres très sérieux avec un style cartoony comme Powers et qui marchent.
Pour un indé.
Pour un indé, ça marche. Dans les
pour un titre mainstream, je sais pas si ça tiendra.
En tout cas, le pitch est intéressant. Après, je sais pas ce que ça donnera. Ça donnera peut-être pas un truc qui durera très longtemps. Mais en tout cas, c'est inventif.
Le pitch est très indé, hein, comme tu l'as dit, ça. Mais justement, peut-être que DC essaye de faire quelque chose d'indé. C'est peut-être quelque chose qui aurait plus trouvé sa place chez Vertigo. De par le contexte, enfin, ce que l'on a d'expliquer pour le moment. Mais bon, finalement, ils ont décidé de le mettre chez DC.
Oui, mais le problème avec les séries qui ont des pitchs d'indé, c'est qu'en général, c'est à des ventes d'indé.
Bah, ouais.
Je suis d'accord. Hein.
Voilà, oui, donc.
Ouais. Et donc, la deuxième série qui s'appelle The Movement, donc là, c'est Gail Simone qui sera au scénario, avec Freddie Williams 3 au dessin. Et là, ce sera
Freddie
un
Williams
peu
2.
Le. Comment?
C'est Freddie Williams 2.
Ah, Freddie Williams 2, oui, pardon. Oui. Et donc là, ce sera un peu l'opposé de The Green Team, puisque ça va concerner les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent. Enfin, c'est un peu les rebelles de la société qui, un peu sur les modèles de Occupy Wall Street ou sur les Anonymous, on en marre un petit peu d'avoir une société
rebelles,
régie par les super-héros et par le gouvernement qui font un petit peu d'activisme, quoi. Donc c'est pareil, on n'a pas vraiment d'infos au niveau du pitch, mais en tout cas, c'est assez étonnant.
Moi, je vois plus ça annulé que The Green Team, personnellement.
Moi, je veux les deux annulés.
J'aurais plus envie d'aller voir Green Team, peut-être aussi parce que l'équipe créative m'intéresse plus, mais j'ai plus envie d'aller voir The Green Team qu'aller voir The Movement. J'irai voir quand même The Movement, parce que c'est un pitch assez décalé pour être intéressant, mais... j'ai du mal à concevoir ça sur une série régulière, quoi. Faut voir ce qu'ils en font.
Ça peut être un titre hyper, anarchiste, qui serait vraiment, qui détonnerait un peu dans le milieu des New 52. Ça pourrait être cool, quoi.
Ce qui détonne carrément chez DC, puisque généralement ils essayent de pas trop faire de vagues politiquement parlant, puisqu'il y a comme la Warner derrière, il y a une image de marque, il y a tout ça. Hein.
Non, mais pourquoi pas, avec des héros qui seront des hackers, je sais pas. En tout cas, c'est assez mystérieux.
Au-delà de toutes ces annulations... Pardon, excuse-moi, Bruno.
Non, vas-y, continue.
Donc, au-delà de toutes ces annulations et de ces remplacements, puisque pour le moment, on n'en a que deux, alors on a toujours cette prétendue série Superman par Scott Snyder. On ne sait pas si elle arrivera en mai. Ça reste une supposition, mais on n'a aucune confirmation. Il y a aussi une possibilité, c'est une rumeur d'une série améthyste, puisque Christy Marx avait proposé à DC de faire Améthyste en série toute seule et non pas dans une anthologie comme Sword of Sorcery. Alors, on ne sait pas puisqu'il en reste encore beaucoup annoncé, mais on a aussi des changements d'équipe créative, la spécialité de chez DC, et on va commencer déjà par quelque chose d'étonnant, c'est Vibe. La série dont, personnellement, je me fous, mais royalement, qui, à mon avis, ne dépassera pas le numéro 8, mais bon, faut y croire, qui devait être écrite par Andrew Kreisberg, qui est déjà sur la série Arrow. Le pauvre, comme on nous dit, il a tellement de responsabilités, ça lui prend tellement de temps de gérer Arrow, que bah, finalement, on le dégage au numéro 3, et à partir du numéro 4, c'est Sterling Gates.
Qui, alors, comme série... de par hasard, est un protégé de Jeff Jones.
Ouais, voilà, moi, ce qui m'étonne, bon, au-delà de ça, au-delà de ce problème-là, ce qui m'étonne, c'est quand même que la série n'est pas encore sortie. On sait déjà que le mec qui était censé être le scénariste de la série, qui avait des plans au long terme, d'après ce qu'il disait dans les interviews, est dégagé au numéro 3. Donc DC continue de faire des conneries, quoi. Ouais, on continue de dégager les gens à l'arrache comme ça, quoi.
Étrange.
Bah oui, mais c'est la gestion DC. On fait n'importe quoi au jour le jour et surtout on lance des séries comme Vibe. Voilà, comme quoi, soit on se dit ben la drogue c'est pas bien. Parce qu'on voit quand même les ravages que ça fait. Soit on se dit, ben, vous n'avez pas un bon fournisseur d'essai. Hein.
Mais j'ai l'impression ou alors, faut commencer. DC essaie de contrer Marvel, puisqu'il voit que Marvel marche en ce moment. Mais à croire qu'ils n'ont pas pris en compte l'effet numéro 1, je ne sais pas. Pourtant, ouais. Je pense que ce sont des gens talentueux quand il s'agit de compter le pognon. Mais ce qui est étonnant, c'est que tu as l'impression qu'il n'y a plus que ça chez DC. On annule des séries, on annonce des nouvelles séries, on fait des changements d'équipe créative. Depuis combien de temps n'avez-vous pas vu une grosse histoire de teaser comme grosse news d'essai?
Ben, on a des petits joueurs qui est lancé depuis 2 ans, dont on voit rien du tout.
Non, bah, là, t'exagères un petit peu. Il y a histoires teasées, on en a eu plusieurs dans les sollicitations, que ce soit pour Green Lantern, pour Batman.
Ils font pas
pour
leur com dessus. Le truc, c'est qu'ils font pas leur com dessus.
Ouais, en général, c'est uniquement les gros
sollicitations,
titres.
C'est tout.
Uniquement les gros titres. Avec les principaux auteurs de la boîte.
Je crois que la dernière grosse annonce pour une série, pour une histoire, c'était Death of the Family.
Voilà.
Depuis, on n'a pas eu vraiment de grosses annonces en termes d'histoire.
Ouais, mais on a quand même toujours cette Trinity War qui va sortir bientôt.
Oui,
bah,
attends, je veux dire, ouais, Trinity War, ça devient
parle plus
que War, quoi.
Non, mais
ça
le problème,
le problème de
Trinity War, c'est qu'on, c'est plus les éditeurs qui en parlent que les séries. Donc c'est un peu le problème. Hein.
Concernant les changements de casting, on a aussi d'autres changements à partir du mois de mai. Michael Alan Nelson va remplacer Mike Johnson sur Supergirl.
Ouais,
pas une grosse perte.
Justin Jordan va remplacer Tom DeFalco sur Superboy.
Pas une grosse perte non plus.
Pas mal ça.
Et Justin Gray et Jimmy Palmiotti vont remplacer Fabian Nicieza sur Batwing qui devait s'arrêter.
Bah c'est une bonne nouvelle.
Survie.
Finalement, ouais, voilà, survie.
Bonne nouvelle, parce qu'en général, Jimmy Palmiotti et Justin Gray font plutôt du bon boulot. S'ils peuvent arriver à intéresser du monde à cette série, tant mieux.
Leurs dernières mini-séries se sont quand même largement plantées. Hein.
Ouais, mais c'est sur des personnages, tout le monde s'en fout.
C'était l'univers des personnages autour de Oncle Sam et compagnie, là, ils sont
voilà.
Pas très.
Mais tout le monde s'en fout des personnages.
Donc voilà, bon, ça bouge chez DC. Continuons dans les remplacements. On savait très bien. Alors, ça, c'est une très bonne nouvelle pour toi, Bruno, puisque. Sur Animal Man, on avait deux dessinateurs. On avait Steve Pugh, accompagné de quelqu'un d'autre. Actuellement, c'était Timothy Green 2, dessinateur préféré. celui avec qui tu manges tous les soirs après les podcasts, hein, d'ailleurs.
Non, mais le pauvre, ça se trouve, il est très sympathique. Hein, mais
Oui, voilà, je sais que c'est juste quelqu'un que tu n'apprécies pas, dont tu n'apprécies
pas trop
le trait.
Voilà. Ouais.
Eh bien, il s'en va d'Animal Man et il sera remplacé par John Paul Leon.
Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Parce que John Paul Leon, j'aime bien. Et il a déjà fait un numéro, c'était le numéro un petit peu spécial qu'on avait eu d'Animal Man. Mmh. Voilà, c'est ça, c'était le film de sa, enfin, dans lequel il avait joué. Et les dessins étaient très bons, donc moi ça me convient.
Mmh. Et justement, la
cover
si t'as
pas lu,
20...
va voir Earth 6, qui est dessiné par lui aussi.
Ouais, exactement, bon. Ouais. Earth 6, ouais.
Justement, la cover du numéro 20 qui est sollicité pour le mois de mai, Nous montre justement un retour avec ce film-là, Red Thunder, où on voit Animal Man soutenant quelqu'un devant l'affiche du film. Apparemment, en tout cas, Animal Man, c'est ce qui nous est teasé, va devenir extrêmement populaire. De plus, il va garder les souvenirs de ce qui s'est passé pendant le Rotworld et les alliances avec lesquelles il s'est allié. Et donc, du coup, eux ne se souviennent pas. Enfin bon, voilà. En tout cas, on nous promet des bonnes choses pour Animal Man. Ça, c'est plutôt intéressant.
C'est plutôt cool. Ouais.
Par contre, Timothy Green 2, lui, va quand même retrouver une autre série, une série que tu aimes.
Et c'est là où je dis que c'est la malédiction, Timothy Green 2, puisqu'il vient encore, déjà, sur Redwood, il était arrivé, alors que c'était une série que j'aimais beaucoup, du coup, j'ai un petit peu lâché, j'ai pas lu les 4 derniers numéros, et là, en fait, il vient se mettre sur Suicide Squad, sur ma petite série, mon petit bébé, là, que j'aime bien, que tous les mois je dévore et que j'adore, voilà, je suis un peu dégoûté. Donc il arrivera à partir de mai sur Suicide Squad.
Voilà, un titre que tu vas arrêter de lire, donc.
Je vais continuer à le lire, mais je vais vraiment pleurer des larmes de sang.
Avant-dernière petite chose de notre partie spéciale d'essai, Power Girl va retrouver son ancien costume.
Alléluia. Alléluia. Bon, alors, je sais pas comment ça va se passer. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'on a une couverture du numéro du mois de mai, où on la voit avec son costume iconique. Elle est enfin sexy, enfin cool. Ça c'est plutôt une bonne chose. Ça montre quand même aussi que le côté retravailler les costumes des personnages iconiques, parfois ça marche pas toujours très bien. Et ça faisait très longtemps que les fans demandaient un retour de Power Girl avec son costume classique.
Tu disais Sam, j'ai pas compris.
J'ai dit n'est-ce pas Superman?
Ouais. Franchement, je m'y suis habitué visiblement.
Oui, moi aussi, mais
pour Superman, voilà. Oui, mais celui de Power Girl était vraiment juste horrible, quoi.
Dernière news d'essai, on a gardé le meilleur pour la fin. C'est une annonce qui est tombée pas longtemps avant que l'on enregistre le podcast.
Pour une fois.
C'est, ouais, pour une fois. Cette grosse news est tombée avant le podcast. Ouf.
Merci d'essai. Ils ont reçu notre réclamation. Arrêtez de sortir les grosses news après.
Jeff Jones quitte Green Lantern.
Waouh.
C'est définitif. À partir du numéro 20, le numéro du mois de mai sera son dernier. On ne sait pas encore qui va le remplacer, mais apparemment, il est trop occupé à écrire d'autres séries. En même temps, il faut compter Justice League, Aquaman, Justice League of America, qui débarque bientôt. Plus, c'est que responsabilité de Chief Creative Officer. Mm-hmm. Enfin, je sais pas si franchement, il s'en sert vraiment beaucoup de ses responsabilités-là, vu le bordel que c'est chez DC. Mais bon, ça n'engage que moi. Il s'en va de la franchise Green Lantern.
Mais il a fait un peu le tour aussi, hein, donc...
J'ai envie de dire, putain, ouf, il était temps, quoi.
Même si, je dirais, il s'en va avant que ça devienne vraiment catastrophique, donc c'est déjà bien.
Oui, ça c'est cool.
Et ça restera quand même l'auteur qui a le plus marqué la franchise Green Lantern, puisque c'est lui qui a vraiment transformé Green Lantern en une franchise chez DC.
J'ai adoré Green Lantern. Enfin, de toute façon, je pense que mon amour pour Green Lantern s'est transmis à travers tous les podcasts, à travers le spécial que l'on a fait, fut un temps pour essayer de faire comprendre aux gens pourquoi Green Lantern était vraiment bon et comment commencer. Podcast qui apparemment est toujours autant téléchargé, hein. C'est le podcast qui est le plus téléchargé chez nous et qui continue de l'être. Donc j'ai vraiment adoré ce qu'a fait Jeff Jones, mais depuis les New 52, c'est juste de la merde.
Je sais pas, le second arc était pas mal, hein.
Il n'a plus cette façon d'écrire comme avant. Ouais. Il n'est plus capable de faire un récit comme avant. Il s'est délayé et accéléré ses fins parce qu'il ne sait plus comment finir.
C'est exactement ce que j'allais dire. C'est-à-dire qu'il développe, c'est-à-dire que ça démarre lentement, il développe bien, c'est-à-dire que le milieu est toujours dans ses arcs, est toujours très intéressant, et on se dit ça y est, ça démarre. Et la conclusion est rushée, mais en 10 secondes, quoi. Voilà. Il ne sait plus vraiment conclure de manière épique comme il savait le faire autrefois sur... Mais par exemple sur JSA, qui a toujours de très bonnes fins sur ses arcs.
La preuve même qu'il est grillé, il savait tellement plus quoi faire. Oh bah tiens, je sais plus quoi faire, je vais faire un cinquième Green Lantern, t'as rien.
Qui deviendra l'une des séries remplaçantes, j'en suis sûr, ils vont nous pondre une série Green Lantern consacrée à Simon Bass.
Alors, qui pour le remplacer? Justement, on sait pas. Mon souhait personnel, ce serait que Tomasi reprenne Green Lantern.
Ah, c'est pas que ton souhait, hein. Je crois qu'on en a discuté avant.
Oui, on en a discuté avant, mais bon, après, je veux pas vous mettre dans le truc.
Moi j'y ai pensé, peut-être JMS.
Oh là. Je crois qu'il est bien occupé de JMS.
JMS est bien occupé entre
son film.
Superman Earth One, ouais, exactement.
Mais ça serait bien, je pense.
Ouais, franchement, si c'est pour nous faire la merde qu'il nous a fait avec Superman ou Wonder Woman.
Mais il a dit qu'il s'est grillé à ce moment-là.
Oui, mais qu'est-ce qui nous prouve qu'il est remonté?
Ça fait quand même un ou deux ans qu'il a arrêté d'écrire de manière régulière.
Mais comme dit Steve, enfin Thomasy, moi je suis plutôt d'accord, puisque on l'a vu avec Rise of the Third Army, c'est un petit peu lui qui a réussi à sauver le crossover avec toutes les numéros qui sont dans Green Lantern Corps.
Et son Green Lantern Corps Annual.
Ouais, moi,
qui était très bon.
Rise of the Third Army.
Qui était très bon. Je pense qu'il a les reins suffisamment solides pour pouvoir tenir à la fois Green Lantern et Green Lantern Corps.
Est-ce qu'il a la vision créative? C'est ça le.
Je sais pas, mais.
Parce qu'il était très bon justement pour suivre derrière en fait Geoff Johns et tout ce qu'il faisait, il l'intégrait dans sa série tout en intégrant de nouveaux éléments. Est-ce qu'il a vraiment la vision créative qu'avait Geoff Johns depuis le début?
Je sais pas, mais en tout cas il a toujours, enfin franchement depuis qu'il écrit Green Lantern Corps, c'est-à-dire depuis avant les New 52,
ouais,
la série
ouais.
est bonne quoi.
Ouais ouais.
Donc franchement,
ça dépend. Moi je trouve que son run en fait entre, il a commencé au moment de Sinestro Corps soir. Tout le run qui va de là jusqu'à Black Ice Knight est exceptionnel. Mais vraiment une tuerie, mais à lire et à relire, franchement. La suite est moins inspirée, je trouve. Hein. Il est allé ensuite sur une série Guy Gardner qui était très chiante, on va le dire.
Moi, je l'avais bien aimé, cette série-là. Et puis, Green Lantern Corps avait été repris par Tony Bedard à l'époque.
Qui était à chier.
Oui, la
partie
Whip
Runner,
c'était pas terrible.
Voilà. Et voilà, le relaunch de Green Lantern Corps, c'est... C'est en dents de scie, je trouve.
Ah,
le premier arc était très long.
Moi j'ai bien aimé, sauf le petit coup de mou au milieu avec l'histoire de après la. Enfin, le tribunal avec. Ça, j'avais trouvé ça un peu chiant.
Ouais, c'était le deuxième arc.
Avec
quoi,
les Alpha Lanternes.
John Stewart.
C'était moyen.
Le premier arc était pas mauvais.
C'est juste un peu long. C'est ça le problème, c'est que c'est vraiment un peu long le premier. Il était en 6 parties et. Moi j'en voyais plus le bout.
On avait ces Black Ops Lanternes.
Ça c'était excellent.
Super bien caractérisé. La force de Thomasy, c'est de savoir gérer de multiples personnages. Ce que savait faire Geoff Johns, mais apparemment a du mal à faire aujourd'hui. Quoi.
Ben, ça serait bien s'il revenait en fait au combo, je trouve, Kyle Rayner, Guy Gardner, qui fonctionne beaucoup mieux, je trouve, qu'avec John Stewart. Personnellement, c'est mon souhait.
Et John Stewart a l'air de reprendre un peu de poil de la bête, là. Je sais pas, il a l'air sur une bonne voie avec Fatality, Mogo, tout ça. Bon, je veux lui laisser le bénéfice du doute, parce que de toute façon, Stewart était tellement transparent.
À part tuer des planètes, il savait pas faire grand chose d'autre.
Oh merde, j'en ai détruit encore une.
Encore or ! Oh là là !
Oh, je vais me flageller avec mon anneau. Ah putain. Enfin bon, ça c'est une grosse nouvelle, on va suivre ça de très près, savoir qui va reprendre.
Ouais, à noter que bonne chance normalement, à lui. Le dernier numéro de Geoff Johns sera un numéro spécial, le numéro 20, qui sera un petit peu plus gros que les autres.
Moi, je pense que c'est le minimum.
Ouais, une
conclure un run de 10 ans, ce serait le minimum d'avoir un numéro double. Ouais. Voilà. Espérons que ce soit pas trop délayé, par contre.
Ouais.
On va passer maintenant au bref de la semaine après ce premier gros sujet. On termine justement DC avec une annonce. DC ressort un nouveau Digital First. On en avait déjà avec Batman Legends of the Dark Knight, les séries Arrow, les Smallville, tout ce qui sort donc en digital avant d'être ensuite compilé pour un comique papier. Et cette fois-ci, on nous annonce Adventure of Superman, qui sera donc exactement comme Legends of the Dark Knight, une série anthologique avec plusieurs artistes qui vont tourner, nous faire des petites histoires. Et le premier, ce serait Orson Scott Card qui va nous écrire ça, avec Aaron Johnson. Et au dessin, on retrouvera Chris Prowse et Carl Story. Alors, en plus, il y a un grosse polémique en ce moment qui traîne sur Orson Scott Card. Apparemment, le monsieur serait un fervent opposant au mariage gay. Il y a eu des pétitions qui ont circulé dès cette annonce pour le faire virer de Superman parce que c'était inadmissible. Je trouve ça
ridicule.
Ouais, ridicule. Voilà. Tout ceci a été orchestré en plus par Reed Johnson. Magnifique.
A priori, je crois qu'il a quand même d'autres squelettes dans le placard, cet Orson Scott Card, puisque c'est pas la première fois qu'on lui reproche.
Oui, il a une dent contre le gay, je sais pas trop pourquoi.
Mais bon, après.
Bon, le mec est con, on a compris, mais bon.
De là à boycotter son implication dans une histoire, bon.
Je veux dire, à ce moment-là, il faudrait boycotter Frank Miller parce que le mec est extrême droite, quoi.
Voilà, oui.
Ouais, ouais.
Si on doit boycotter tous les mecs qui sont cons, on n'a pas fini, hein. On peut plus grand chose.
Pour ma part, j'ai boycotté Holy Terror parce que ça ne m'intéressait pas du tout.
C'est pas vraiment une idée du boycott, c'est juste que ça. Moi non plus, je l'ai pas lu, mais c'est surtout parce que ça m'intéresse pas.
Ça m'intéressait pas. Maintenant, un truc sur Superman, c'est différent. Le mec va pas pouvoir faire passer ses. Enfin, je vois mal DC qui accepterait un comic où Superman aurait ces idées-là de s'opposer au mariage gay. Enfin, c'était pour moi, c'est techniquement impossible que DC accepte quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment de la polémique pour faire de la polémique, quoi.
Par contre, c'est de la polémique pour faire politiquement correct, surtout.
Ouais. Dans l'idée,
ce qui est très, très, très répandu maintenant, on n'a plus le droit d'avoir d'opinion. Voilà, le mec a des opinions à la con. Ben, je dirais, c'est son droit. Hein.
Oui, voilà. C'est, je veux dire, tant qu'il
ça reste une opinion à la con, mais c'est son droit.
Voilà, on a le droit de dire oui, on a le droit de dire non. Bah, peu importe, t'as le droit de dire non, t'as le droit d'être con, mais après tout, c'est toi que ça regarde, quoi. C'est ça. C'est tout simplement ça. Tu allais dire, Bruno ?
Non, je disais que Legends of the Dark Knight, c'était plutôt un titre agréable, et je veux dire, avoir un équivalent pour Superman, c'est plutôt chouette. Parce que ça permet d'avoir vraiment beaucoup d'artistes qui tentent des choses, parfois des choses qu'on n'a pas pu voir dans du Batman classique, justement. Je sais que, par exemple, il y a eu dernièrement un petit one-shot de Raphaël Albuquerque sur Batman, qui était super, et c'est un petit bijou, et donc si on a de bonnes surprises comme ça avec Adventures of Superman, ça pourrait être cool.
Eh bien justement, ils ont déjà annoncé quelques auteurs. On aura notamment Dan Abnett, Anne Bennett, Mitch Brodweiser, Giuseppe Camuncoli, Nathan Edmondson, Joshua Elflakoff, Christos Gage, Mark Guggenheim, Justin Jordan, Matt Kint, J.T. Krull, Max Landis, Andy Lanning, David Lafam, Jeff Lemire, Michael Avenoming, Risley Rosmo, Steven Segovia, Bruce Timm, Marcus Stowe et Marv Wolfman, ainsi que Jean-Marc de Matteis qui a annoncé sur Twitter qu'il travaillait aussi sur une petite histoire. Okay. Il y a énormément de créateurs talentueux qui vont passer sur ces Adventures of Superman.
Ouais,
alors ça reste des petites histoires, mais pourquoi pas, quoi.
Ouais, ça pourra faire une belle anthologie dans un beau volume relié dans quelques années.
Oui, et puis bon, ça va sortir en comic papier. Et puis, s'il y a certains créateurs que vous aimez plus que d'autres, prenez-les en digital. Ça coûte moins cher. Ça vaut 99 cents l'épisode. C'est une dizaine, douzaine de pages à peu près. Voilà, si vous aimez particulièrement un auteur, ça permet d'avoir une petite histoire de Superman. Un auteur qu'on n'aurait pas forcément pu voir sur Superman dans une série régulière, mais ça peut toujours être agréable, quoi.
Bon, et puis si c'est comme dans Legends of the Dark Knight, ça concerne l'avant New 52, donc on aura du Superman en slip, quoi.
Voilà. C'est une façon de le promouvoir, effectivement. Allez, on passe à Marvel. Marvel qui annonce une ligne de romans pour femmes avec ses personnages.
Annulé au numéro 1.
Avec Hyperion. Annulé au numéro 2, tu disais ?
Non, au numéro 1.
Non, parce que déjà, il y en a deux
romans,
prévus.
Donc
Il y en a deux prévus pour sortir. Ils annoncent, voilà, ces romans-là. Alors, on aura un premier roman sur She-Hulk, qui s'appelle The She-Hulk Diaries, écrit par Marta Acosta, avec une jolie couverture complètement violette et un rouge à lèvres vert.
On remercie les gens qui, au Photoshop, ont fait ce super montage, qui est quand même assez magnifique. Enfin, nos auditeurs peuvent pas voir les couvertures, mais c'est vraiment les couvertures par le quin, quoi. C'est vraiment tout pourri.
Une petite recherche sur le net. Et puis, on aura donc un deuxième roman qui s'appelle Rogue Touch par Christine Woodward, qui sera donc centré sur le personnage de Rogue. Mais apparemment, vu l'image qu'ils ont utilisée et vu le pitch, ce sera la Rogue du film X-Men 1, qui a aspiré la vie de son petit ami et qui part sur les routes avec un certain James.
Ouais, bah ouais, passionnant. Mais l'histoire de Hulk, c'est plutôt, ça ressemble au journal de Bridget Jones. Et l'autre, ouais, comme tu dis, c'est Rogue avec ses atternoiements amoureux. La pauvre, elle tue tous ses copains, donc c'est un peu dommage. Mais
ils ont vraiment une mauvaise opinion des femmes, même pour penser que ça va marcher.
Je sens que ça va être du bon bouquin à l'eau de rose.
Mais ça, c'est pour attirer les femmes, puisqu'on sait très bien que les femmes ne lisent pas de BD, elles lisent des romans. La preuve avec le succès fulgurant de Fifty Shades of Grey. Donc chez Marvel, on veut faire du fric. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait des romans pour femmes.
Ouais, ben voilà, mais c'est pour faire du fric. Plutôt que d'essayer de faire des bonnes histoires comics avec les personnages féminins. Enfin, ce qu'ils essayent de faire, quoi, parce qu'on peut pas leur retirer ils lancent beaucoup d'équipes
féminines
dans les prochains titres.
Ah, c'est clair, ils tentent. Mais on verra si ça marche ensuite, si la réponse du public est bonne. Mais en tout cas, on peut pas leur reprocher de ne pas tenter. Ça, c'est clair. Bon, bah, il en faut pour tous les goûts.
Voilà,
hein,
ouais.
On ne lira pas ce genre
on va
de
dire,
truc.
Mais
enfin, bon. On continue avec Superior Spider-Man, Superior No More, c'est ce qui nous est teasé pour ce numéro 8, non 9 et 10 pardon, excusez-moi, je me perds dans les trucs. Oui voilà, Superior No More, donc serait-ce déjà la fin de Superior Spider-Man.
On serait trop chanceux, donc non.
En tout cas, Marvel a décidé de capitaliser sur le fait de faire hurler les fans, puisqu'on nous promet quelque chose qui mettra encore plus en colère les fans que le numéro 700.
Donc il va se taper Mary Jane.
Je ne sais pas. On a aussi le retour du Green Goblin, hein, qui nous a été déjà teasé. Bon,
ça va être le combat mental entre.
Non, c'est Green Goblin qui va se taper Mary Jane.
Parker et Octopus, quoi.
Ouais, mais est-ce que c'est pas déjà, enfin, bon, l'idée était pourrie, d'accord, on est tous d'accord là-dessus.
Ouais.
Mais est-ce que c'est pas un peu court déjà d'annoncer la fin de Superior
Spider-Man ?
Je te dis
que ça serait une trop bonne nouvelle. C'est juste pour faire vendre un peu plus.
Puis honnêtement, enfin, moi personnellement, la communication de dire ça va rendre les fans encore plus en colère que le Spider-Man 700. Très mauvaise communication.
Ils vont être en colère parce qu'ils ont acheté 10 numéros de Superior Spider-Man et qu'il y aura Amazing Spider-Man numéro 710 qui commencera après.
Ouais. Bon, on va pas rester là-dessus plus longtemps. On continue avec Iron Man Origins, Bruno.
Oui, bah, c'est juste dans la série Iron Man de Kieron Gillen. En fait, il a décidé de faire un arc qui va tout nous révéler sur les origines d'Iron Man et qu'en fait, tout était programmé. Qu'en fait, Tony Stark a toujours été prévu comme étant Iron Man et que ce qui lui était arrivé lorsqu'il s'était fait enlever et qu'il avait construit son armure, finalement, il y avait peut-être quelque chose derrière tout ça. Donc, voilà, de la rétro-continuité en veux-tu, en voilà, par Kieron Gillen. On attend de voir. A priori, dans ses interviews, il a dit que justement il était jaloux que Dan Slott avait fait criser tout le monde avec son supérieur Spider-Man, et il a dit j'ai envie de faire un peu la même chose avec Iron Man, donc on verra.
Non, mais est-ce que c'est la nouvelle communication de Marvel de faire hurler les fans simplement pour le but de les faire hurler?
Je sais pas, on verra.
Arrêtez
bien
d'acheter,
mais, déjà de toute façon on en a parlé, hein, Iron Man jusqu'au numéro 6 c'était quand même très mauvais. Peut-être qu'il a besoin d'avoir un bon petit coup de pied au cul pour que ça soit intéressant, mais pourquoi pas.
Je sais pas. Moi, franchement, j'ai du mal avec cette communication de faire dans le sensationnel juste pour faire dans le sensationnel, quoi. Je veux dire, maintenant, à croire que les sollicitations Marvel ou les annonces Marvel, c'est pari match, quoi. C'est la même chose.
C'est ça, le choc des photos, hein. Poids des mots.
Moi, ça me défrise un petit peu.
C'est la seule politique qu'ils ont pour vendre. Hein.
Bon, par contre, la bonne nouvelle, c'est que c'est Eagle Cham au dessin, c'est plus. Greg Land,
ouais. Mais je sais pas, d'un côté, on a une boîte qui nous fait que des changements éditoriaux constants en nous annulant des séries, nous changeant les équipes créatives, en virant des gens alors qu'ils n'ont même pas commencé à travailler ou en les virant au troisième numéro. Et de l'autre côté, on va vous rendre les fans super en colère. Je sais pas, mais
c'est une bonne époque pour lire des comics.
Non, mais les Big Two maltraitent leurs clients quand même.
Ouais.
Puisque,
on
va pas se nier, on est des clients.
Ils font du business.
Ouais, je sais pas. Est-ce que les gens tombent encore dans ce piège de j'achète parce que ça fait parler?
Quelle est la meilleure vente du mois de janvier?
Ben oui, justement, on va y venir. Merci de me lancer.
Merci à
les ventes du mois de janvier. Dernier sujet de nos brèves avant de passer au sujet VF. Alors déjà, on a pu s'apercevoir que les ventes concernant le mois de janvier sont un petit peu en recul par rapport au mois de février. Pas de beaucoup, hein. En termes d'unités, on est à moins 3,34%, et en termes de dollars, on est à moins 4,44%. N'oublions pas qu'il y a eu une semaine de comics, on va dire en moins, puisqu'il y avait ces dernières semaines entre Noël et le premier de l'an qui étaient très faibles. Il y avait que deux numéros chez Marvel, par exemple. Donc, il y a peut-être ça. En revanche, pour les graphic novels, comparé au mois de décembre 2012, la progression en termes d'unités est à plus 16,63% et en termes de dollars à plus 21,64%, effet Fable, puisqu'il y a eu le 18e tome de Fable qui remporte haut la main la place.
Suivi de pas loin par Saga. Donc il y a eu de grosses sorties en TPB.
Le plus intéressant dans ce graphique, c'est quand même la progression entre janvier 2013 et janvier 2012, puisque en termes d'unités, on arrive à presque 20% de comics vendus en plus par rapport à l'année dernière en janvier, et on est à 30% de graphic novels en plus par rapport à janvier dernier.
Alors sur les comics, c'est une très bonne nouvelle, parce que janvier 2012 était marqué encore par le rebond GTC, parce qu'on était encore au niveau numéro 5, donc il y avait encore un gros effet. Par contre, Marvel était à la traîne à ce moment-là. Par contre, Graphic Novel, c'est encore une meilleure nouvelle, puisque les Graphic Novel étaient un peu au fond du trou à ce moment-là, au niveau des ventes, en janvier 2012. Donc voir une progression comme ça aussi importante, c'est plus un redressement qu'autre chose.
En tout cas, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Les comics se vendent plus, effectivement. Alors, effet numéro 1, effet film...
Parce que là, on a le relaunch Marvel.
Ouais, gros effet Marvel Now, ça marche bien.
Mais peut-on nier l'implication des films, quand même?
Oui.
Parce qu'on a quand même eu deux énormes franchises qui ont rapporté d'un côté 1,5 milliard et 1 milliard chez DC.
Ouais, mais il
n'y
a pas eu d'impact.
Cette année.
Si tu prends les ventes, par exemple, des titres Avengers au moment de la sortie du film, il y a eu zéro impact. Hein. C'est-à-dire que ce qui m'avait choqué vraiment, c'est que les gens étaient plus préoccupés d'aller se taper un shawarma pour avoir vu le film que d'aller lire les comics Avengers. C'était hallucinant, quoi.
Oui, mais la conversion ne se fait pas forcément dès la sortie du film. Elle peut très bien se faire un mois ou deux mois après.
Ouais, en fait, l'effet film, moi je dirais que c'est juste dans le sens où c'est les gens en parlent maintenant de plus en plus, même les non-fans de comics, et ça devient de plus en plus branché, enfin je vais dire
en France, c'est facile à trouver.
Et du coup, les gens commencent à s'y intéresser. Ils vont pas spécialement suivre le titre Vengeur, mais ils vont aller regarder dans le comic shop ce qu'il y a dedans. Et puis
les gens vont pas aller dans un comic shop aux États-Unis.
Il y a un petit effet de mode. Il y a un petit effet de mode quand même.
Je crois pas. Non, en France, oui, on va aller voir un peu parce que c'est facile à trouver. On a toujours une librairie, on a toujours un kiosque près de chez soi, notamment dans les grandes villes, dans la plupart des villes en fait. Aux États-Unis, pour trouver un comic shop, si tu vis en dehors de la côte Est et de la côte Ouest...
Ah, mais tu sais, tout ce qui est les Barnes & Noble, justement, tu les trouves à Barnes & Noble, enfin, je veux dire, il y a...
Oui, qui est en faillite.
Il faut pas oublier que Marvel a été racheté par Disney. Disney, c'est aussi Best Buy. Et ça, faut pas oublier de prendre en considération que, au niveau des graphic novels, etc., il y a un certain push. Tu commences par un graphic novel et après, tu te mets au single.
Non, puis il y a l'effet Walking.
Je suis peu convaincu. Hein. Je pense que c'est toujours le même lectorat de 200 à 250 000 personnes qui augmentent juste leur achat.
Ah, mais moi, je pense que ça se fait sur la durée, en fait. Certains arrêtent, des nouveaux lecteurs arrivent, et puis le relaunch fait ramener des anciens lecteurs. Et à mon avis, finalement, au cumul, il y a plus de lecteurs qu'avant. Enfin, plus de lecteurs qu'avant, pas forcément par rapport aux années 80, mais...
Non, je pense pas. Je pense qu'on est toujours, je te dis, entre les mêmes 200-300 000 lecteurs qui restent, en fait, qui sont fidèles. Il y a très peu de renouvellement pour le moment.
Ta réflexion est pertinente, hein, Bruno, aussi. Hein, l'effet Walking Dead...
je veux bien que ça attire
La série télé, le succès...
Mais plus en graphique nouvelle.
La vente de graphique nouvelle.
Voilà, quand tu vois que le premier TPB est toujours dans le top 5 des ventes...
Ouais, troisième place.
On va y venir, hein, de toute façon, au classement exact. Quand on lit cette interview de Bob Arras et je sais plus le nom de l'autre éditeur chez Marvel,
c'est Bob.
Ouais, merci. Celui le vice president of sales.
C'est une fille.
Oh pardon. Donc elle. Excuse-moi. Ils le disent clairement que en regardant précisément les pics de vente, ils s'aperçoivent que les pics de vente dans les comic shops sont plus importants les semaines où il y a eu des Walking Dead qui sont passés à la télé.
C'est donc, impressionnant, ouais, comme effet.
C'est QFD, quoi.
Bah, en même temps, c'est regardé par des millions de personnes, donc.
Oui, voilà, pas énorme. Enfin, ça fait des très grosses audiences sur AMC, mais ça reste une chaîne câblée. On va pas se nier que beaucoup de personnes le piratent, même aux États-Unis.
D'ailleurs, ça fait 10 millions de personnes,
donc c'est énorme.
On va passer au vrai classement cette fois-ci en termes de single. La première place est étonnamment supérieure, Spider-Man numéro 1. Non, oui. Je déconne, c'est pas étonnant du tout. C'est
je tout pense à fait avec environ 200 000 exemplaires, ce qui est dans la droite lignée du Amazing Spider-Man 700.
La deuxième place est Batman numéro 16, suivi par Justice League numéro 16. On trouve ensuite un nouveau numéro 1 de Marvel, New Avengers numéro 1. Supérieur Spider-Man 2 se chope la cinquième place, ce qui est pas si mal que ça, oui, d'avoir les deux numéros 1.
C'est une baisse assez très relative, hein, entre le 1 et le 2, donc...
Sachant qu'il est sorti plutôt en fin de mois, donc c'est pareil, il y a toujours la vente cumulée sur les différentes semaines qui jouent, hein, sur le classement. Savage Wolverine numéro 1 se place en 6ème, alors là, pour moi, ça c'est une surprise.
Non, je pense pas. On savait ce qu'on achetait, donc il n'y a pas de surprise.
Ensuite, Uncanny Avengers 3, 8ème, nous avons Detective Comics numéro 16, Avengers 3 pardon, en 9ème place, et enfin en 10ème, Uncanny X-Force numéro 1.
On voit quand même qu'il y a quand même un tassement, je trouve, des titres Marvel Now, hein, dans l'ensemble. All New X-Men est 15e, oui, c'est pas énorme. Captain America descend déjà en dessous du top 20, Hulk pareil.
Ouais, on voit que l'effet numéro 1 passé, DC reprend un petit peu sa place en haut du classement.
Voilà, et que les ventes Marvel reviennent en fait au niveau normal. Hein,
Oui, et puis c'est pour les gros titres, hein, Batman, Justice League. Hein.
Et Batman, essentiellement, parce qu'il y a le crossover Death of the Family. Ce qui fait que ça tire, en fait, Detective Comics et les autres titres Batman.
Une petite réflexion sur ce classement, Bruno ?
Ouais, un truc à noter, c'est que DC a pas très bien fait la pub par rapport à son crossover avec Aquaman, puisqu'il y a deux fois plus de Justice League qui a été vendu que d'Aquaman. Donc la moitié du public n'a pas la fin de son histoire. C'est un peu...
Quand je disais tout à l'heure qu'il teasait pas sur l'histoire.
Ouais, c'est un peu con.
Tu vois, on voit l'exacte preuve. Marvel communique sur ses histoires. Peut-être pour annoncer de la merde, peu importe. En tout cas, ils communiquent sur leurs histoires et ils font vendre. Bon, il y a l'effet relaunch, d'accord, mais ils font vendre quand même. DC ne communique pas sur les histoires. Bilan, Aquaman se plante.
Ou alors Green Lantern, Corps Samuel. qui justement réglait le crossover
oui,
Rise
et qui se retrouve un petit peu
49e.
Plus bas dans le classement.
Je veux dire, et même nous, on voit les infos passer puisqu'on est obligé de les surveiller pour cette émission, entre autres. On le surveille aussi parce que voilà, c'est quand même le milieu dans lequel on travaille entre guillemets, certes, mais voilà, on est obligé de les surveiller. Et même nous, on a du mal à trouver les news purement histoire de décès, quoi.
C'est vrai que Green Lantern Annual, par exemple, c'est je sais qu'il y a certains comic shops américains où justement c'était pas les gens qui lisent Green Lantern, et ben il est pas mis de côté obligatoirement à chaque fois. Donc il y a plein de gens qui vont se retrouver sans la fin du crossover, et c'est un problème de communication.
Ouais, il y aura peut-être des second prints ou ce genre de choses.
Et un truc à noter qui m'a fait rigoler, notre gros coup de cœur de la semaine dernière, c'était Green Arrow. Il est à la 100e place, le numéro 16.
Ouais, mais attends, il est sorti quand aussi?
Oui, non, mais je sais.
Mais c'est le numéro 16, on en parle, Bruno.
Ouais, donc voilà.
Là, ça va être le numéro 17, c'est le classement
de février. Mais du coup, je suis curieux de voir quel va être l'effet du changement d'équipe créative lors des prochains bilans, quoi. J'espère qu'il sera plus à la 100e place.
Oh, ça m'étonnerait. Vu que tout le monde, on n'est pas les seuls, sur le net, à avoir encensé énormément ce numéro-là, à mon avis, il va y avoir un... Les gens vont l'acheter peut-être pas la semaine de la sortie, ils vont l'acheter cette semaine ou truc comme ça, en voyant le buzz que ça a fait sur le net.
Mais ça sera et
ceux qui l'auront pas lu, ils iront de le rattraper sur le net en allant sur Comixology, le télécharger.
Oui, voilà. Bon, malheureusement, ce sera pas forcément pris en compte dans les chiffres de vente. C'est un peu toujours le souci.
Bah, DC, eux, ils le prendront en compte, je pense.
Oui, ils le prendront en compte, mais dans les chiffres de vente que l'on aura le mois prochain, ça ne sera pas cumulé, et c'est ça qui est un petit peu dommage, quoi. On devrait vraiment avoir ce classement graphic novel, single et digital, ce serait vraiment génial, quoi.
D'un truc que je voudrais signaler, c'est le 100e épisode d'Invincible.
Oui.
Qui arrive quasiment aux portes du top 50, ce qui est pas mal du tout.
Ce qui est pas mal du tout pour Invincible, effectivement.
Oui, parce qu'en général, c'est à 110e, 120e place, donc grosse. Bon, en même temps, 9 couvertures.
Oui, et puis bon, il y a l'effet numéro 100 aussi.
Mais bon, s'ils pouvaient garder quelques lecteurs au passage, ce serait pas mal.
Ouais.
Et le Star Wars numéro 1, qui est juste derrière.
Ce qui est une bonne place aussi pour Dark Horse et pour un Star Wars. Effectivement, ce nouveau relaunch d'une série régulière chez Dark Horse.
Dark Horse qui est le comics le plus vendu cette année, puisqu'ils ont tiré Zelda à 400 000 exemplaires.
Oui, mais c'est pas la
fausse matin.
c'est pas un comic vraiment, c'est un graphic novel. Et puis c'est.
Et encore, non, c'est même pas un graphic novel, c'est plus un artbook en fait.
Ouais. Bah ce sera considéré dans les graphic novels en termes de vente en tout cas.
Ouais, mais ils sont contents quand même, ça rentre dans les chiffres.
Oui, mais bon, voilà.
Ça rentre dans la trésorerie surtout.
Mais c'est très bien pour Dark Horse, c'est très très bien. On continue avec le top 100 justement des graphic novels, on va faire très vite pour le top 10. Fable numéro 10, enfin volume 18 en première place, Saga volume 1 en deuxième place, encore une fois, bonne chose. Puisque c'est pas le premier mois où sort Saga, donc continue d'être bien classé. Walking Dead numéro 1 à la troisième place. Le Silver Surfer par Stanley et Moebius qui se classe quatrième.
Ouais.
J'avais complètement raté la sortie de ce
Moi
truc.
Non plus.
Bah,
moi
c'était
aussi,
en souple.
J'étais passé à côté.
C'était une sortie souple, pas très chère, à $8.
Ouais. Walking Dead volume 2 se classe cinquième. Justice League Hardcover volume 2 se classe sixième. Ainsi que le volume 1 en TP de Justice League toujours à la septième place. Huitième position, nous retrouvons Walking Dead volume 3. À la neuvième position, nous retrouvons Walking Dead volume 17. Et enfin, Animal Man, deuxième TP, se classe dixième.
Invincible, juste derrière.
Voilà, Invincible en onzième. Ça nous fait quand même 1, 2, 3, 4, 4 Walking Dead dans le top 10.
Sachant qu'il y en a un pas loin en treizième place aussi.
Ouais, on a le volume 4 qui se classe treizième. C'est hallucinant, la popularité de cette série.
Et seulement deux Marvel dans le top 20 des graphic novels, comme d'habitude.
Ouais, mais Marvel a une politique quand même relativement chère. Pour ses hardcovers, là, en première edition, etc., c'est quand même, ça revient plus cher limite que les singles, donc un petit peu abusé, quoi.
Aucun intérêt, quoi.
Allez, on va passer au deuxième gros sujet de cette semaine, c'est l'AVF qui bouge. Panini annonce un nouveau relaunch cet été. Un an après le relaunch qui nous avait promis que ce serait le dernier.
Oui, mais c'est toujours le dernier, hein, jusqu'au prochain.
Alors, les critiques ont tout de suite fusé sur leur Facebook, c'est parti dans tous les sens, si bien que Jérémy Manès a fait un courrier, une espèce de lettre ouverte dans laquelle il explique beaucoup de choses. Il explique notamment que oui, ce relaunch était quand même une politique très marketing. Il ne s'en cache pas.
Le précédent, tu veux dire?
On le savait.
Le précédent, oui, pardon, le précédent, autant pour moi.
On avait compris.
Oui, bah, on l'avait déjà compris, mais là, il l'annonce clairement.
Officiel.
Donc, bah, déjà, ce qu'on peut noter, c'est qu'il y a eu, cette fois-ci, une très bonne communication de la part de Panini, et c'est assez rare pour être signalé. Ils ont réagi très vite, ils ont fait une communication propre en expliquant les choses. Après, on est d'accord avec eux ou on n'est pas d'accord, mais en tout cas, on peut pas leur nier de pas avoir communiqué. Et ça, c'est important.
Ah, mais c'est quelque chose qu'ils font de plus en plus depuis un an, hein, depuis l'arrivée d'Urban, oui. Entre leur Facebook et puis justement le fait qu'ils ont recruté de nouveaux éditeurs, enfin entre guillemets,
des personnes, nouveaux correspondants avec les lecteurs, ouais, voilà. Qui prend justement en charge une partie de la communication, qui en fait viennent du lectorat, donc qui savent répondre, donc c'est plutôt intéressant.
Donc ce relaunch concernera Marvel Now, bien sûr, puisque ils ont expliqué le truc, c'est qu'au moment où ils ont choisi de faire ce relaunch, ça avait été annoncé à peu près au mois d'avril, eux ils avaient déjà les infos de ce qui se passait après le dernier crossover en date AVX, ce gros relaunch Marvel, ils le savaient déjà, sauf que il leur avait été annoncé la même chose qui nous a été annoncée à tous au départ, c'est-à-dire pendant 5 mois, on va relancer des titres, etc. Or, il s'avère que finalement, cette période de 5 mois s'étale beaucoup plus, qu'on a des nouveaux numéro 1 qui arrivent au mois d'avril, au mois de mai, même au mois de mars, alors que ça devait s'arrêter au mois de février. Donc bon, un petit peu, c'est Marvel qui a décidé de
s'arrêter un petit peu.
Voilà, hop là, ça a l'air de marcher, bon, on va continuer, faites des nouveaux trucs. Oh, c'est pas grave, les gens ont oublié qu'on avait dit que ce serait 5 mois, ils ont complètement oublié. Du coup, ils ont décidé de changer leur politique éditoriale. Seul problème, c'est que ils vont commencer par publier le Point One qui lançait tout ce Marvel Now dans je ne sais plus quoi d'ailleurs.
Marvel Mega Hors Série, truc comme ça.
Marvel Universe Hors Série numéro 14.
Je suis plus mal sur les collections.
Ce Point
là, il y en a
One
trop.
Qui sort en juin. Et à partir du mois de juillet, relaunch. Et il commence avec un nouveau magazine, Uncanny Avengers, un mensuel de 64 pages. Et c'est là qu'est le problème, qui comprendra Uncanny Avengers, A+X et Thunderbolts. Moi, ce qui me gêne, c'est qu'on retourne au mensuel de 64 pages.
Ouais, mais a priori que pour ce titre-là.
Ouais.
Les autres seront des mensuels à 140 pages, comme les autres qu'on a actuellement. Ouais.
112.
Mais je comprends toujours pas ce que vient foutre Thunderbolt là-dedans.
Oh, bah là... C'est qu'il faut bien la caler quelque part, parce que cette série est franchement digne d'aucun intérêt.
Oui, mais la composition du
sauf
magazine,
pour venir,
c'est vrai que
mais...
elle est complètement illogique. Enfin,
c'est pas dans la logique du Mac, quoi. Uncanny Avengers, c'est A+X, je peux comprendre, parce que c'est rencontre entre des personnages Vengeurs et X-Men. Mais dans dans Thunderbolt, il y a ni des Vengeurs ni des X-Men.
C'est un peu bâtard comme tri.
C'est un peu, on a besoin d'un truc pour combler, donc c'est bouche-trou.
Par contre, le fait de faire un relaunch, cette fois c'était nécessaire, quoi. Avec le
direct
de Marvel Now, là ils étaient obligés.
Relaunch a beau être justifié, le problème c'est que les gens gueulent, quoi. Alors moi je suis d'accord avec toi Bruno, et je pense que toi aussi t'es d'accord Sam, pour le relaunch cette fois-ci il est justifié. Moi vraiment ce qui me gêne, c'est que ce dernier relaunch, celui que l'on a subi au mois de juillet, n'était donc pas justifié. Ils le disent eux-mêmes que finalement c'était plus marketing qu'autre chose. Les collectionneurs gueulent, effectivement on peut comprendre que plusieurs séries de 12 numéros sur ton étagère ça craint un petit peu, plutôt qu'une seule et grosse série de 36. Voilà.
Je sais pas, nous on est des lecteurs de VO, donc les relaunchs à répétition, je dirais maintenant on est blasé. Hein.
Peut-être, mais ça me fait chier quand même un relaunch aux États-Unis. Hein. Ça me fait tout autant chier qu'un
relaunch.
Non, ça y est,
moi j'ai dépassé ce stade. Hein, moi à la limite, je serais même plus surpris s'il relaunchait au bout de chaque arc. Donc c'est pour dire. Hein, Allez, 6 épisodes au relaunch, c'est parti.
Non, vraiment, moi le dernier point qui me gêne, c'est vraiment ça, c'est on lance le relaunch avec Uncanny Avengers. Alors, ils vont faire comme Marvel Now, ils vont faire le relaunch un petit peu étalé comme ça, en lançant des nouveaux mags tous les mois, même technique que Marvel Now, je dis pourquoi pas. Le problème c'est qu'ils ouvrent le relaunch avec un mensuel de 64 pages dont on ne connaît pas encore le prix.
Ça c'est pas
4,30€.
4,30€.
Bah, c'est sur le même modèle un peu que le magazine AVX qui faisait pas un grand nombre de pages et qui
c'est le même modèle que le magazine Wolverine.
Ouais, aussi. Mais par contre, ça sera peut-être l'occasion enfin d'avoir une logique un petit peu dans la composition des titres. Puisque là, ils vont sans doute devoir faire un petit peu des changements.
Ah ça, on sait pas, c'est en cours de discussion, d'après ce qu'ils ont dit.
Mais parce que là, c'est le moment, quoi. Je veux dire, il faut qu'il y ait absolument un magazine X-Men où tu as à la fois All New X-Men, Uncanny X-Men. Il faut que tu aies un magazine
Avengers. Et uniquement
ces
deux séries-là, parce que le rythme de publication de All New X-Men est démentiel.
Ouais.
Donc ces deux séries-là.
Il faut pas qu'on se retrouve avec les FF dans le magazine Iron Man. Enfin, je veux dire, c'est des choses complètement...
Voilà, oui, ça n'a rien à foutre là, quoi.
Il faut qu'il... Ah,
surtout que le FF et Fantastic Four soient publiés ensemble. Quoi.
Bah, c'est déjà le cas, hein, mais que ça continue.
Oui,
quoi.
Mais avec le relaunch, on ne sait pas.
Bah, il leur faudrait presque un magazine FF, quoi.
Moi, ça fait longtemps que je pense que les séries Avengers, notamment, devraient être publiées ensemble.
Tout à fait. Tout à
voilà,
fait.
Qu'on ait 3-4 séries Avengers dans le même, dans le mag Avengers.
Ils ont bien expliqué ça, notamment dans les commentaires hein, sur cette publication. Et marketingment parlant, c'est compréhensible. C'est le choix de Thunderbolts dans Uncanny Avengers. Il y a certaines séries, si on les publie pas, enfin, si on met toutes les séries Avengers ensemble, ou on met d'autres séries. Et effectivement, il y a des séries qui sont plus vendeuses que d'autres. Et du coup, personne n'irait acheter un mag avec, je ne sais pas moi, Thunderbolts, Dark Avengers. Oui, mais pareil, personne n'irait l'acheter, cette série-là.
Bah, en même temps, non, mais de toute façon, les chiffres de vente en librairie, t'as des exigences beaucoup moins importantes qu'en kiosque. En kiosque, je crois que le barème minimum de vente, c'est 15 000 exemplaires.
Peut-être, mais ça coûte plus cher à produire pour quelque chose qui ne se vendra pas mieux. Donc, de toute façon, pour eux, c'est une perte sèche, quoi qu'il arrive.
Bah, le publie pas, alors.
Bah, si. Le but, c'est d'essayer d'en publier. Je le transforme en verbe du troisième groupe, moi, c'est nouveau. D'en publier le plus possible, pour le meilleur coût possible et le meilleur taux de revient possible. Et en calant Thunderbolts avec Uncanny Avengers, ils sont sûrs que cette série sera lue. Elle ne plaît pas, peut-être, mais elle sera lue.
Il y avait moyen de mettre Thunderbolts avec X-Force, avec justement la nouvelle série Fearless Defenders, enfin des équipes, quoi.
Oui, mais si tu mets Cable and X-Force, tu mets Thunderbolts, tu mets Fearless Defenders, déjà, un mag avec ces trois séries-là, moi perso, j'ai pas envie de l'acheter.
Si tu rajoutes Uncanny X-Force avec, ça fait un bon petit mag.
Oui, mais c'est une série X-Men, Uncanny X-Force.
Oui, mais combien de personnes ont arrêté par dépit le magazine X-Men Universe ? Parce que ce qui est publié dedans, c'est dégueulasse. On a X-Men Volume 3.
C'est de la merde.
Voilà, c'est pourri. On a Astonishing X-Men qui est franchement pas très bon. On a les New Mutants qui tirent franchement sur la fin et ça se sent. Et il est publié dans X-Men, j'ai des bêtises, et on a Uncanny X-Force pour un
épisode. Et Edge of Apocalypse.
Edge of Apocalypse, voilà. Mm. Donc on a une série bonne et quatre autres qui sont pas très bonnes. Mm. Voire
ouais,
complètement
ouais. Non, c'est compliqué, hein, de
combien
décider,
de personnes ont arrêté cette série X-Men Universe et attendent une éventuelle publication en librairie.
Puis, faut quand même se souvenir aussi, je l'ai dit tout à l'heure, mais ça s'applique à beaucoup de séries Marvel, c'est le rythme de publication, quoi. T'as plusieurs séries Marvel qui sont de haut profil maintenant, qui sortent 2-3 numéros par mois. Pour publier ça en français, derrière, va falloir s'aligner. Hein. Donc, publier...
Il y aura des hors-séries. Hein.
Non, mais publier toutes les séries, moi, je veux bien. Mais il vaut mieux publier moins et suivre le rythme, et uniquement publier les séries importantes, plutôt que de publier des séries de quatrième rang dont tout le monde se fout.
Pourquoi une série comme Morbius, qui est vraiment une série quatrième zone, qui, même si le premier numéro m'avait laissé une bonne impression, je le vois pas publié en français, tu vois. Mm. Peut-être dans un hors-série, hein, comme ils ont fait avec Venom ou Scarlet Spider. Et encore, Scarlet Spider, il publie dans Spider-Man, mais je vois pas continuer de publier Scarlet Spider, publier Superior Spider-Man et publier Morbius, tu vois. J'y crois pas une seconde.
Mmh. Bah, il y a Avenging Spider-Man, de toute façon. Donc, le programme de Spider-Man,
il y a énormément de titres. Ah, oui.
Voilà, ouais, il est déjà calé. Hein. Les séries dont il faudra modifier le programme, c'est Avengers, c'est Iron Man, X-Men et X-Men
mais
Universe.
Déjà,
ils
ont décidé, par exemple, que des séries comme Hawkeye sortiraient directement en 100%, quoi. Donc, c'est aussi comme ça qu'ils pourraient un petit peu sortir beaucoup de choses. Mais pas
c'est
que
pas plus mal.
Quoi.
Et puis, n'oublions pas, quand même, il y a aussi quelque chose qu'il faut retenir. C'est que Panini avait annoncé ça il y a quelques mois, qu'ils allaient essayer de faire un peu plus d'équivalent TPB. De reprendre certains arcs, et les ressortir, en version librairie. Ben voilà,
ça va en faire un max de mag, hein,
On va voir comment ça va se dérouler. À mon avis, ils vont peut-être lancer ça avec le Marvel Now, du coup, puisque pour le moment, on n'a pas forcément vu ça à l'œuvre actuellement, même si ça a été annoncé il y a plusieurs mois. Ils vont sûrement lancer ça avec le Marvel Now. Et du coup, s'il y a des séries qui vous ne plaisent pas, attendez la version TPB si elle a lieu. Mm-hmm. Je sais que ça peut être un peu difficile de se dire, je sais pas si elle est publiée, je le prends pas. De toute façon, prenez les numéros 1, ça vous engage à quoi? Ça vous engage pas à grand chose si vous suivez déjà le kiosque Marvel. Prenez le numéro 1, s'il y a plus de séries que vous n'aimez pas que vos séries que vous aimez, vous arrêtez. Au pire, vous passez à la VO, ça reviendra au même prix. Bon, enfin, je sais pas. Autre chose importante aussi, qui mérite d'être signalée, la traduction va changer pour pas mal de noms de personnages.
Ouais, ça, c'est assez marrant.
Suite à une discussion avec Disney qui ne veut pas de confusion, concernant certains personnages qui sont apparus dans le film Avengers, certains personnages vont avoir leur nom modifié, notamment Hawkeye ne s'appellera plus Œil de Faucon en VF, mais Hawkeye. Black Widow s'appellera Black Widow. L'équivalent masculin de la guêpe s'appellera Le Frelon, etc., etc.
Ouais.
On a plusieurs personnages comme ça qui vont changer. On a Ant-Man aussi qui va reprendre son nom d'origine et qui s'appellera plus l'Homme Fourmi. Les équipes ne s'appelleront plus Vengeurs, mais Avengers, donc Young Avengers, Dark Avengers, etc. Et pas les Vengeurs Noirs ou les Nouveaux Vengeurs.
Ça nous change rien. Puisque comme
pour nous, ça nous change rien. Pour les Français, ça peut être quelque chose qui peut les choquer. En tout cas, ils ont le. Pour moi, c'est une bonne chose de pas traduire. Je préfère.
Par contre, un truc bizarre que nous a dit Marty sur le site, c'est qu'ils vont continuer à garder cette bêtise de Red et de Jane Richards.
Oui, mais ça fait 50 ans maintenant, donc.
Bah là, c'était le moment de le changer, quoi.
Ouais. Non, ils vont continuer. Jane s'appellera toujours, enfin, Sue s'appellera toujours Jane en français et Reed s'appellera toujours Red en français.
Ça, c'est le truc, moi j'ai du mal.
Voilà, donc c'est quand même un programme qui bouge chez Panini. On va suivre ça de près. On vous tiendra au courant des nouveaux mags qui sont annoncés, parce que c'est vrai que pour le moment, on n'a que Uncanny Avengers annoncés. On ne sait pas quels seront les prochains mags. Au moins, ça bouge. Mais dans la maison d'en face, Urban, puisque bon bah c'est quand même un peu comme Marvel, hein, Marvel et DC, on a Panini et Urban. Urban aussi a annoncé quelques petits changements pour 2013. Sam, je vais te laisser nous en parler.
Oui, alors ça touchera essentiellement le kiosque. Et notamment deux mags en particulier, qui sont DC Saga et Batman Saga. Donc il y avait eu une petite réaction allergique il y a quelques semaines sur le forum Facebook d'Urban sur la composition en fait, de la revue Batman, puisque manifestement pendant plusieurs mois, il semblait que la revue Batgirl allait disparaître. Bah, finalement non, en fait elle disparaîtra un seul mois, et le mois suivant elle aura droit à deux épisodes pour rattraper le retard. Je suis pas très convaincu, étant donné que la série Batgirl, personnellement, voilà, tout le monde connaît mon opinion. Mais bon, il y a des gens qui apprécient, donc ouais. Pour eux, tant mieux.
Ouais.
Ensuite, on aura la publication de Batman Inc. Leviathan Strike. Donc ça, c'est une confirmation, puisqu'on avait déjà vu la composition de Batman Saga. Et ce qui m'a personnellement conforté, c'est qu'on l'aura aussi dans Grant Morrison présente. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et l'autre grosse news, c'est surtout le mag DC Saga, qui était de notoriété publique le plus faible, puisqu'on avait quand même des séries pas très intéressantes. Oui, Superman, je pense à toi. Et Supergirl aussi. Donc en fait, ce qui reste à confirmer, mais qui est la version de travail actuellement, c'est qu'on aurait les deux autres séries Justice League qui rejoindraient le mag avec Justice League Dark et Justice League of America. Et la publication d'Aquaman dans le Mac pour le crossover Throne of Atlantis.
Ouais, ce qui est assez logique. Voilà. Après, ce qu'il faut noter aussi, c'est qu'en fait, ils ont confirmé qu'ils vont garder 3 mags. Ils n'ont pas prévu d'en faire des supplémentaires. Mais par contre, qu'ils vont rajouter des pages, voire parfois une quarantaine de pages pour certains numéros. Et qu'on n'aura pas de différence au niveau du prix.
Donc, ça, c'est une bonne nouvelle.
Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Après, moi, la composition des mags... je suis plutôt d'accord avec les gens qui râlent quand on leur enlève des séries qui avaient commencé au numéro 1. Pour moi, s'ils veulent mettre de nouveaux titres, ils créent de nouveaux magazines, quoi. Je veux dire, tu vas pas aliéner une partie du lectorat qui a envie de suivre une série en faisant disparaître cette série tout d'un coup, quoi.
Moi, ce qui me dérange le plus, c'est quand même cette publication éventuelle, hein. C'est qu'une rumeur pour le moment de Justice League Dark. Tu la prends à partir de quel numéro dans la VF?
Je pense le run de Jeff Lemire.
Veut dire repartir au numéro 7.
Voilà. Mais tu peux aussi publier le premier arc en TPB.
Oui, il va falloir une publication TPB là, parce que ça va être bizarre, quoi. Il va y avoir un décalage de numéros assez important qui ne sera pas justifié par l'ordre de sortie des séries, quoi. On ait des séries comme Ravagers qui soient, bon, je prends cet exemple-là, c'est le premier qui me vient, qui soit en retard, bon, on n'est pas publié en VF, mais voilà, qui soit qu'au numéro 7 alors que les autres sont au numéro 15, c'est tout à fait normal puisqu'elle est sortie quelques mois plus tard. Justice League Dark est quand même là depuis le début du relaunch.
Là, du coup, ils sont victimes du fait qu'ils ont été trop frileux au départ en ne sortant que 3 mags et en gardant toujours cette politique de garder 3 mags seulement, de ne pas rajouter 2 titres. Quoi.
Ouais, et
parce que c'est
quelque part,
on va retrouver
sur
ce problème avec
Hell
on Earth, avec d'autres crossovers où il y a des choses qui seront incompréhensibles si on les a pas dans le kiosque. Quoi.
Mais ils sont aussi prisonniers de leur composition de départ avec des séries comme Supergirl qui ont rien à foutre là, mais c'est pas grave.
Ouais, Supergirl, j'ai jamais compris ce choix, comme Batgirl, hein. Il y avait des séries plus intéressantes à publier.
Voilà, publier Justice League Dark dès le départ, parce que c'était une série Justice League, tu pouvais le mettre dedans. Ou Aquaman.
Au moins, ils n'ont pas sélectionné des titres qui ont été annulés depuis. Ils ont quand même gardé 12 titres qui existent encore aux États-Unis. Donc,
Ouais, enfin, 12 sur 52 en kiosque. Alors certes, il y a quelques séries librairies, mais il n'y en a pas des masses. Au final, en France, on n'a même pas 20 séries. Hein,
ah oui, carrément, carrément.
Pour le moment, pour le moment.
Oui, mais ça fait léger quand même. Quand on voit certaines séries, il y a tout un pan de l'univers. L'univers magique n'est absolument pas publié en VF. Mmh. C'est limite, sachant que ça doit prendre une plus grosse part dans DC, notamment avec ce fameux Trinity War, ça risque de poser quelques soucis.
Petit clin d'œil à la série Phantom Stranger, qui est très bien et qui est un vrai prologue à ça. Donc ça, il faudra qu'il le sorte en français.
désolé.
Non, mais je sais. Mais le dernier numéro était excellent aussi, et c'est vraiment le prologue à Trinity War.
Ouais, mais 0, 1 et 2, exactement pareil, moi j'arrête, hein, c'est normal. Enfin bon, ça bouge des deux côtés en VF. Au moins, on peut pas dire que l'actualité VF est morte en ce moment.
Non. Ouais, c'est clair.
Et il va y avoir encore d'autres annonces dans les semaines qui viennent. Donc, on va suivre ça aussi avec énormément d'attention.
Bah, vu la concurrence. Hein.
Mais oui, c'est très bien. Justement, la concurrence est peut-être ce qui pouvait arriver de mieux pour que les choses bougent. Après, reste à voir si elle bouge de la façon qui nous plaise ou pas. Mais au moins, ça bouge.
Petite info, dernière info sur Urban. Ils ont annoncé pas mal de titres indés qui vont sortir en TP, dont Snapshot, dont on a parlé la semaine dernière.
Ils ont récupéré Snapshot.
Ils ont récupéré Snapshot et ils vont l'éditer un petit peu comme ils ont fait pour Saga. Donc ils n'éditent pas que du Vertigo et du DC.
Bah déjà qu'ils rattrapent Vertigo. Tu as quand même des séries, ça fait un moment qu'on gueule dessus pour les avoir. Donc
Unwritten par exemple.
Oui, American Vampire.
Ça, on
n'a
pas d'infos par contre.
American Vampire aussi.
Pas d'infos non plus pour l'instant.
Mais je pense qu'ils attendent la conclusion de 100 Bullets et Sculpt, puisque ça se termine cette année. Pour
en même temps,
enchaîner
ils ont...
sur d'autres séries.
Sculpt, ça s'arrête au numéro 60 quand même, il reste encore un peu de marge. Hein.
Ben pas vraiment, puisqu'on en est au tome 7, donc il y aura 10 tomes, il reste 3 tomes après. Hein.
En même temps, les sollicitations urbaines ne vont que jusqu'à avril pour l'instant, donc ils ont beaucoup de choses à annoncer encore. Et... Voilà.
On va maintenant passer à la partie Screen News, on va faire très vite, puisqu'on a déjà débordé sur le temps. On parle donc de films Walt Disney, les films Star Wars, et notamment Disney qui annonçait qu'ils arrêtaient les Star Wars 3D. On avait eu ce premier épisode en 3D. Eh bien, Disney a dit stop, c'est pas la peine de faire les autres, ça sert à rien. On va plutôt se concentrer sur les nouveaux projets.
Ouais, constat d'échec, encore une fois.
Constat d'échec ou justement pas envie de se disperser, puisque dans le même temps, ils nous ont aussi annoncé qu'ils allaient faire des films hors de cette nouvelle trilogie, des films qui pourraient se baser sur le passé de certains personnages. On nous parle notamment d'un film possible sur la jeunesse de Han Solo ou encore un film sur la jeunesse de Yoda.
On n'avait pas déjà parlé.
On fait du Star Wars. Mais ouais. Après, moi, je suis un petit peu étonné que les spin-offs en question concernent des personnages des anciennes trilogies. J'aurais plus vu des spin-offs qui enrichissent la nouvelle trilogie qu'ils veulent faire. Parce que là, c'est un peu regarder trop dans le passé.
Peut-être, mais va convaincre des gens qui ne sont pas habitués à la continuité Star Wars d'aller voir quelque chose qui se passe dans le monde de Star Wars avec des personnages qu'ils ne connaissent pas.
Ouais, mais justement, je pense qu'ils peuvent encore plus fâcher les gens en racontant des origines qui sont pas du tout canoniques avec ce qu'ils ont lu dans l'univers étendu.
Reste à savoir si elles ne seront pas canoniques, hein, ça on
ne
sait pas
encore. Ouais, mais si plutôt que de faire des spin-offs qui se passent plus tard et tout, où là, il n'y a pas eu grand-chose d'écrit, enfin, ou s'il y a eu des choses écrites, mais ça sera peut-être moins vexant. Enfin, je sais pas. Moi, ça, je trouve ça un peu curieux, et puis.
Sa main.
Moi, la jeunesse de Yoda, par exemple, ça m'intéresse.
Oui, c'est quelque chose qui n'a jamais été raconté, hein, de toute
façon. Voilà, et je pense que lier ça, en fait, à l'ascension de la République et de l'ordre Jedi, ça peut être très intéressant. Donc.
Oui, la jeunesse de Yoda, ça m'intéresse plus que la jeunesse de Yann aussi, je suis d'accord.
Voilà, Han Solo. Mais Yoda, là, il y a du matériel. On pourrait mettre en scène, par exemple, des batailles régulières avec le côté obscur de la Force, ce genre de choses.
Oh bah, plus de 800 ans, oui, il y a de quoi.
Voilà,
faire.
Ouais, donc. Il y a de quoi créer, quoi. Donc, oui, peut-être. Pourquoi pas.
Allez, on passe d'un Abrams à l'autre et on passe à Star Trek.
Ouais, vite fait.
Star Trek Into Darkness, apparemment, le méchant de Star Trek Into Darkness pourrait être finalement Khan, alors qu'il nous avait dit non, ce sera jamais lui.
Ouais, bah après, c'est sur Entertainment Weekly, ils ont peut-être fait une bourde sur leur site internet.
On verra.
Ils ont sorti des couvertures avec le nom des personnages. Bon, c'est complètement une bourde et c'est de l'intox, soit c'est ça. Ce qui ne serait pas complètement illogique, puisque de toute façon. J. Abrams est quand même assez proche de l'univers classique de Star Trek.
Oui, mais il avait dit qu'il voulait pas faire Khan, puisque c'était trop attendu. En même temps, il avait dit qu'il voulait pas faire Star Wars.
Voilà, c'est ça.
En même temps, personnellement, je suis content de pas savoir. Bah, je vais pouvoir aller au cinéma sans me dire j'ai déjà tout vu.
Ouais, mais enfin, franchement, se mesurer à la meilleure trilogie de Star Trek.
Que je n'ai pas vu. Donc,
mais tu vois, justement,
ben
là, quand
Sam,
j'ai
tu
revu.
Tu vas rattraper
le...
ça tout de suite pour la semaine prochaine, on fera une interro.
Quand j'ai revu Star Trek, là, de J.J. Abrams, ça m'a fait sourire parce qu'il y a l'utilisation, justement, des créatures qu'on voit dans Cannes, les petites bestioles qui se mettent dans le cerveau pour contrôler. Et c'était déjà un bon petit clin d'œil au film. C'était pas mal. Enfin bon.
On continue avec l'univers Marvel. Cette fois-ci, on a le Star-Lord de Guardians of the Galaxy. C'est Chris Pratt.
J'ai jamais entendu parler. Voilà.
Qu'on a pu voir dans Parks and Recreation ou encore Zero Dark Thirty, le dernier film de Kathryn Bigelow.
C'est Julie.
Qui a été primé aux Golden Globes et qui sera peut-être même primé aux Oscars.
Mais si tu le lis.
Ça peut-être me dit quelque chose, j'ai dû le voir dans des petites séries, mais bon, après, voilà. Enfin, on aura plus de news sur le casting de Star-Lord, ça c'est cool.
Attends, il y aura peut-être encore des annonces, hein, à savoir qui sera sous le costume de Gamora, qui sera sous le costume de Drax, parce qu'il sera peut-être pas complètement fait en CGI, un peu comme Hulk et Banner. On sait pas. Continuons toujours chez Marvel, mais cette fois-ci du côté de chez Sony, avec le Amazing Spider-Man 2, des infos concernant le film, Bruno.
Oui, très peu, hein. C'est juste une confirmation un petit peu du plot avec le fait que Electro sera bien les belles et bien le méchant, et que on aura l'arrivée de Harry Osborn, qui est un ancien ami de Peter. Et puis en fait, c'est surtout le fait qu'ils vont continuer à creuser cette histoire d'indices un peu sur le passé de Peter et sur ses parents qui auraient un lien avec le fait qu'il soit devenu Spider-Man.
Comment faire en trois films ce qu'on aurait dû faire en un?
Voilà. Bon, moi je suis toujours pas passionné par cette nouvelle saga, donc
oui,
j'ai toujours
sympa,
pas vu le premier, moi.
Ouais.
J'ai toujours pas vu, moi.
Bah, tu rates rien.
J'ai déjà même pas vu le Spider-Man 3.
Bah, tu rates rien non plus.
Non, mais je regarde très peu de films, en fait. Hein. Je préfère me concentrer sur les séries, qui est un média que je trouve beaucoup plus intéressant. Enfin, ça dépend des séries.
Oui, là aussi.
Ça dépend, ouais.
Bah, en même temps, il y aura beaucoup de nouvelles séries à la rentrée prochaine, donc...
Ouais. Ah, qui sait, on fera peut-être un petit spécial série bientôt.
Hein. Oui, je pense.
C'est vrai qu'on avait ça dans les tuyaux. Ben voilà, c'est tout pour le Screen News. On passe au bash de la semaine. Alors, Sam, un bash?
Non, pas vraiment. Je suis heureux dans la vie.
Oh, putain. Comment j'ai du mal à te croire.
Non, mais je te dis,
ouais,
je suis blasé,
bah, mini bash, hein, mais c'est par rapport aux compositions, là, justement, des mags urbaines, le fait d'avoir Leviathan Strikes dans le Batman saga, je comprends pas, ça sert à rien, c'est pas du tout du New 52, et ça a rien à voir là. Donc, j'aurais préféré qu'ils mettent autre chose, quitte à mettre quelque chose.
Moi, mon bash de la semaine sera consacré à DC, et oui, bien sûr, hein, c'était le gros sujet du départ, c'est New 52, franchement, enlever déjà le New, et puis enlever le 52 aussi de la cover. Je veux dire, ça fait quasiment 2 ans. C'est le nouvel univers normal. Si à continuer de garder New 52 écrit sur la cover, ça veut dire qu'on va se rediriger peut-être vers l'ancien univers. Et pour moi, c'est un gros manque de confiance. Ayez des couilles, enlevez les New 52, arrêtez de publier 52 séries, dites que c'est l'univers DC normal.
New
Allez jusqu'au bout de la chose, quoi.
C'est clair, c'est complètement con maintenant.
C'est l'univers DC, point. Voilà. Je veux dire, après Crisis on Infinite Earth, on n'a pas eu le... Enfin, si, on avait le nouveau DC, mais c'était surtout en termes de format, mais c'était pas marqué sur toutes les covers. C'est le nouveau DC, après la Crisis, machin. Non, c'était l'univers DC, point. Vous êtes pas content, vous lisez plus. Eh ben, pareil.
Ah si,
enlever
si,
ce New 52.
J'ai un dernier bash par rapport au New 52, justement. J'en ai marre, putain, mais qu'ils enlèvent ces putains de bannières de Arrow, là, en haut des couvertures. Ça me
c'est
pète les couilles.
Elles sont moches. Hein.
J'en ai marre. Ça
te pourrit les covers.
Ça pourrit les covers. En plus, c'est une série que je n'aime pas du tout. Voilà.
Oui, non, mais même moi qui apprécie relativement la série, je veux dire, je trouve ça dégueulasse.
Ça fait combien de mois maintenant qu'on se les tape là?
Putain, ça va faire 4-5 mois, facile.
Voilà, j'en ai marre.
Bon, même plus que ça, bah, depuis le début de la série en fait.
Voilà.
Enfin, c'est horrible. Allez, un petit bash perso qui n'a absolument rien à voir avec le comics, enfin, quoique. Bash à Google Reader qui m'a bouffé toutes mes news et que pour préparer cette émission, ça a été vraiment la merde. Voilà, c'est un petit bug de Google Reader, ça n'arrive quasiment jamais. Bon, ben, bien sûr, c'est tombé sur moi. Voilà. On termine en vitesse avec le mail de Wazaman, enfin, ou de Wazaman. Voilà.
Référence à une vieille pub d'il y a 15 ans.
Voilà, déjà, on sait que on peut déjà estimer l'âge de notre.
Voilà, oui, il est de notre génération.
Le sujet de son mail, c'est Powers en VF, et il nous dit donc hello à toute l'équipe. Tout d'abord, bonne année à tous et encore merci pour tout le travail que vous sont consacrés à Comic City. C'est un mail qui nous est arrivé il y a quelques semaines que j'avais complètement oublié de passer, donc je le passe maintenant. Je suis un petit peu désolé, je suis en retard. J'adore toujours autant vos podcasts que j'écoute depuis très longtemps. Je crois que c'était le début du Weekly. Donc effectivement, ça commence à dater.
Ouais.
Parce que le 131 est sorti la semaine dernière et qu'on a fait quelques petites semaines, qu'on a raté quelques petites semaines. Donc ouais, ça m'a fait un bon moment. Je sais que vous aimez les encouragements, alors continuez comme ça.
Cool.
Cool.
Bah, merci.
Merci, ouais.
On va continuer.
Continue.
Le rythme VO est parfait, mais je trouve que l'attente pour le podcast VF est parfois longue. Ah, ouais, effectivement. Le problème, c'est que l'émission VF, c'est celle qui nous pose le plus problème à enregistrer. C'est honnêtement celle qui, pour ma part, me passionne le moins, puisque beaucoup j'en ai déjà lu, donc devoir me les retaper pour l'émission, c'est un petit peu des fois désagréable. Mais on est passé sur le rythme mensuel parce que justement deux fois par mois les émissions étaient déséquilibrées, etc. C'est pour ça qu'on était passé sur le rythme mensuel. Effectivement, l'attente peut être longue pour les gens qui n'écoutent que la VF, mais bon voilà, on veut continuer en tout cas ce podcast VF. C'était la seule alternative puisque l'autre c'était l'arrêt complet. Et c'est quelque chose que l'on ne souhaitait pas, donc bon. Peut-être qu'un jour on trouvera une meilleure formule, mais en tout cas pour le moment c'est la seule que l'on a. Quoi qu'il en soit, et pour éviter que le podcast ne déborde, entrons. Bah c'est déjà trop tard. C'est notre faute. Entrons dans le vif du sujet. Pouvez-vous me dire si la série Powers est censée continuer en français chez Panini ou même chez un autre éditeur?
Bah normalement oui.
Oui, normalement oui, ils avaient dit qu'ils reprenaient la série. Mmh. Je ne sais pas quand sort un prochain tome.
C'est chez Panini, c'est ça?
C'est ouais. Chez Panini, effectivement. Ils avaient arrêté la série pour faute de vente.
Ils l'ont
finalement
pris.
Ils ont décidé de la reprendre. Il y a, à ma connaissance, qu'un seul tome qui est sorti pour le moment, depuis qu'ils ont décidé de relancer le truc. Je ne sais pas quand sera le prochain. Je ne l'ai pas vu annoncé pour le moment.
Pour l'instant, ouais, pas annoncé.
Moi, le dernier. Bon.
Le seul truc qu'on s'est annoncé, c'est en VO la sortie ouais. D'une nouvelle série qui s'appellera Powers Bureau.
Ouais.
Le mois prochain.
Anciennement Powers FBI, mais qui a changé de nom. Pourtant, ils ont de la matière, parce qu'ils ont commencé à publier le volume 2, qui doit contenir une trentaine d'épisodes, hein, si ma mémoire est bonne, Sam.
Alors, oui, c'est ça. Un peu moins de 30, mais grosso modo, oui.
Voilà, et puis on a le volume 3, avec, qui était des sorties annuelles, hein, un épisode tous les ans.
Non, il y a eu 11 épisodes.
Il y a eu 11 épisodes, dont le 7, 8, 9 ont dû s'étaler sur 2 ans de publication, un truc comme ça.
C'est toujours mieux qu'Infinite Vacation.
Ben en fait, en VF, ils ont sorti l'intégralité
ah
du...
Ah non, c'est pire qu'Infinite Vacation.
Ouais. Ils ont sorti l'intégralité du volume 1. Ils se sont arrêtés à la fin du volume 1. Donc, je crois qu'ils avaient essayé de sortir le volume 2, il me semble, de mémoire.
Oui, ils avaient sorti le premier, ça je me rappelle qu'ils avaient sorti le premier du volume 2. Ils avaient republié le début aussi, qui était quasiment introuvable aujourd'hui, à l'époque était publié par Semic. Et depuis, on n'a rien. Ça fait, va faire un peu un bon 6 mois hein, que c'est sorti. Mm-hmm. Donc... Bah pour le moment, pas plus de news. Normalement, c'est censé continuer. Alors, à moins que les chiffres de vente aient été complètement catastrophiques et que j'ai raté l'annonce,
je sais pas,
quoi, finalement, ils
arrêtaient. Hein.
Mais... Ouais, Bendis qui a le vent en poupe.
Il a le vent en poupe depuis 10 ans, donc faut être déconner maintenant.
Ouais. Ouais, mais en France, un peu moins quand même, puisqu'il est un peu noyé dans toutes ses publications kiosques, hein, on le sait. Donc,
bon. Je sais pas, puisqu'il écrit la moitié des publications kiosques.
C'est vrai. Ah putain, meilleure blague de l'émission. En tout cas, dès qu'on aura des infos, promis, Wazaman, on essaiera d'en parler. Enfin, on en parlera, on t'enverra peut-être un petit mail. Voilà, on va surveiller ça. C'est vrai qu'on aimerait bien voir la suite parce que c'est quand même une série qui mérite d'être lue. Powers, c'est vraiment un très très bon boulot. Ouais. Très bonne série, très intéressante.
Quand ça sort?
Quand ça sort. Voilà, tu m'as coupé les mots de la fin. Tiens. Voilà, c'est tout pour cette émission. On se retrouve donc en fin de semaine pour les reviews. Le mardi prochain, bien sûr, pour les autres news. Et puis, d'ici la semaine prochaine... Non, pardon, la semaine d'après, hein, on devrait sortir le Comics Weekly, la version... Le Comic City, pardon, la version VF hein, de toutes les sorties du mois de février. Ça devrait être donc d'ici 2 semaines, si j'ai bien compté.
Mmh. Oui, c'est ça, en général vers le 20, on le sort.
Ouais. C'est aux alentours du 20 en général, hein, on s'arrange pour essayer de sortir vers le 20. Voilà, on se retrouve donc très bientôt. D'ici là, vous pouvez nous suivre comme d'habitude sur Facebook, sur Twitter, nous envoyer des mails comme l'a fait Wazaman à l'adresse podcast@comiccity.fr. Et puis bien sûr, retrouver tous les anciens épisodes sur iTunes ou sur le site avec une simple petite recherche.
Et
à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Bah, bisous les gens.